prions par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Nous te supplions de venir au milieu de nous pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, priez pour la direction de la foi. Ce que je voudrais donc, ce que nous voudrions à propos du mystère de Marie, c'est d'atteindre Marie par la foi. Et ordinairement, quand on fait des retraites, souvent, c'est du côté de l'espérance. Quand vous faites une retraite du côté de l'espérance, pour élargir votre espérance, vous allez dans un monastère. Vous allez dans un monastère où c'est le silence, où c'est la liturgie, où c'est la prière, où c'est la consécration à Dieu, où il y a la présence des sacrements, où il y a... on n'abandonne pas du tout cet aspect-là. La preuve, c'est qu'on pratique la liturgie, on chante faux, mais ça ne fait rien. On y met tout notre cœur, ça c'est très clair. C'est pour ça qu'au lieu de chanter à 3 ou 4 voix, on chante à 15 voix à peu près. Et c'est très bien, ça donne quelque chose de particulièrement intéressant. Et surtout ceux qui chantent faux ici, chez nous, c'est ça qui est bien, ils sont obligés de chanter plus fort que les autres. Voilà. Bon, et vraiment, dans le sens de l'espérance, c'est cette espèce de grand silence de la pauvreté. Quand Marie était au tombe, à l'époque, au moment du tombeau, elle était dans l'espérance. Elle était dans l'espérance. Quand Marie était dans cette pauvreté extraordinaire, ce dépouillement, Jésus avait été arraché d'elle. Il faut sentir ça. Quand Jésus est arraché humainement de tout ce qu'on peut ressentir, tout ce qu'on peut comprendre, il s'arrache de nous. Quand on a rencontré Jésus une fois dans sa vie, c'est horrible quand Jésus s'en va. Déjà pour nous, vous comprenez ? Déjà pour nous. Comme ici tout le monde a déjà au moins une fois ou deux une apparition de Jésus, il sait ce que ça représente. Ah, quand Jésus s'est arraché, ah, c'est dur, mais je comprends plus rien, et ça paraît... C'est, oui. Mais à chaque fois que Jésus nous apparaît à la messe, c'est à l'Eucharistie, c'est fou. C'est fou. Mais en tout cas, elle est forcément, c'est pour ça qu'elle est forcément dans silence total, sans silence. Quand, au moment où Jésus est dans le tombeau, c'est fou. Je vous racontais cette mère, cette maman que j'ai vue quand... Ça allait, elle était d'une noblesse, d'une grandeur, tant que cet enfant était mort, tant qu'elle était là. Mais quand ces hommes sont venus pour la prendre, le corps de cette petite fille, et l'enlever pour qu'elle soit mise dans enfermée dans le cercueil et le tombeau, c'est à ce moment-là que même sa peau était déchirée à cette mère. Ah, je vous assure, c'est impressionnant. Quand on a arraché le corps cadavérique de Jésus, de Marie, à ce moment-là, c'était un cri silencieux. Un cri silencieux, exactement comme quand on enlève le corps d'un embryon par un avortement. Un cri silencieux. Défiguré. Elle n'avait plus visage de femme. C'est extraordinaire. C'est là que s'est passée la transverbération du cœur de Marie. Parce que ça a fait une déchirure, mais je vous assure, physique, hein, tout le monde le sait, toute mère sait ça. Qu'il y a un lien physique avec l'enfant. Et que quand l'enfant est enlevé, elle ressent exactement la même chose que si on avait arraché tout un côté, quoi, tout un bras. Enfin, la mère sait ça. Bon, pour un homme, c'est plus difficile à comprendre. Les hommes sont un petit peu plus, moins sensibles. Ils sont moins sensibles. Les hommes, ils comprennent pas que l'épouse s'occupe plus de l'enfant que de lui. Dieu, t'occupes que des enfants, t'occupes plus de moi. Alors, du coup, espèce de jalousie. Mais vous comprenez bien que quand c'est dans le sens de l'espérance, quand elle est comme ça, elle ne peut plus rien dire. D'ailleurs, elle a l'habitude du silence. Mais alors là, c'est fini, c'est terminé. Elle se réfugie où? Là où Jésus a laissé son corps, l'Eucharistie. Au Cénacle. C'est pour ça qu'elle va au Cénacle. dans le silence de l'Eucharistie, dans le lieu du silence de l'Eucharistie. Elle est la seule à avoir reçu l'Eucharistie, quelque part, 2 jours avant, n'est-ce pas, 2 jours avant. La première messe de Jésus, n'est-ce pas, c'était 2 jours avant. Elle a reçu l'Eucharistie. Donc c'est la seule à avoir reçu l'Eucharistie. Pourquoi c'est la seule à avoir reçu l'Eucharistie? Parce que Jésus, il y avait bien les apôtres, ils ont communié aussi, même Judas a communié. Non. Mais l'Écriture le dit bien. Jésus, l'Esprit Saint dit bien dans la Bible, dans l'Évangile, que même Saint Jean, il n'avait pas la foi, il ne croyait pas. Il ne croyait pas encore. Et Jean, la première fois qu'il a eu la foi, c'est quand il est rentré dans le tombeau, que Jésus était déjà ressuscité depuis 3 heures, depuis 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, et qu'il a vu ce suaire. Alors, il vit et il crut. Et c'est le premier à avoir eu la foi. Alors, pour recevoir l'Eucharistie, il faut avoir la foi. Donc, la seule qui a reçu l'Eucharistie, à la première messe de Jésus, 2 jours avant sa résurrection, 2 jours et demi avant sa résurrection, la seule, c'est l'Immaculée, comprenez, a reçu le corps de Jésus par la foi. Parce qu'il y a une relation. une relation de foi entre Marie et le Verbe incarné et la personne de Jésus, la personne concrète, son corps. Alors, aussitôt que Jésus, le corps de Jésus, l'est arraché, regardez, comme un élastique, hein, elle se précipite dans le cénacle, le lieu du corps de Jésus, le lieu où le corps de Jésus a été immolé et donné. Et d'ailleurs, elle a gardé ce corps de Jésus, corps eucharistique. Comprenez bien, je n'imagine pas une seconde, et j'espère que vous, pareil, je n'imagine pas une seconde, hein, que, étant l'Immaculée, étant la Mère de Dieu, ayant la foi, comprenant toute la splendeur, la profondeur, la substance du mystère de l'Eucharistie, recevant le corps de Jésus, sachant que Jésus va livrer sa vie, va être crucifié lui-même, je n'imagine pas une seconde qu'elle a pris une goutte d'eau, ou du saucisson, ou du fromage, après ça. Ou du dessert, ou du chocolat au lait, avec de l'eau. Pas une seconde. La seule chose qui est en elle, dans un jeûne eucharistique évident, parce que là, j'ai pas besoin d'être l'Immaculée Conception, même nous, on ferait ça. Même nous, on ferait ça. Puisque Jésus l'a dit, il le savait, elle le savait, c'était clair. C'était à l'Eucharistie qu'il a dit, il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Et il part au monde des solitiers et il dit, je vais être livré cette nuit même. Vous comprenez? C'est inouï, cette histoire. Il faut relire le discours d'adieu de Jésus. Chapitre 13, 14, 15, 16, 17, 18 de l'Évangile de Saint Jean. On a toutes les paroles que Jésus a prononcées. Après l'Eucharistie. Si un jour vous ne savez pas comment faire l'action de grâce après l'Eucharistie, faites ça. Eh bien, c'est ce que Marie a entendu après la communion. C'est pour ça que c'est resté. Les apôtres ne s'en souvenaient pas d'une seule parole. Ils étaient là, ils sont arrivés au jardin des Oliviers, ils dormaient. Les pauvres types, quoi. Et c'est ce que Marie, on a toutes les paroles. C'est pour ça qu'on sait que c'est l'évangile de Marie. C'est impossible autrement. Jean n'avait pas la foi. Les apôtres non plus, puisqu'ils l'ont eu après. Pourquoi l'Esprit Saint n'avait pas été donné? Et il n'y a que l'Esprit Saint qui nous rappellera les choses que je vous ai dites. Donc pour avoir la mémoire de ces paroles, il fallait avoir l'Esprit Saint, il fallait donc avoir la foi. Donc ces paroles viennent directement de Marie. Marie a conservé ces paroles et elle les a remuées dans son cœur. Donc il faut le savoir, hein, surtout ceux qui se préparent à l'oblature, ceux qui sont déjà au blas de Saint Jean, il faut savoir que ces paroles Les chapitres 14, 15, 16, 17 et 18 de l'évangile de Saint Jean, ces cinq chapitres sont fondamentaux. C'est le passage de la mort à la résurrection par la médiation de la mère du Verbe incarné. Avec la coopération instrumentale de la mère du Verbe incarné. À travers son silence, sa pauvreté. Il y a la parole de Jésus, du coup il y a le silence total de Marie. Elle ne peut s'appuyer que sur une seule chose, une fois que Jésus lui a été arraché. C'est sur les paroles de Jésus. Et sur le corps qu'elle a reçu à l'Eucharistie. Pour ça qu'elle est au Cénacle, qu'elle ne peut pas être ailleurs. C'est facile à comprendre, c'est impossible autrement. Si ça avait été autrement, si un évangile avait dit que ça était fait autrement, qu'elle avait couru au Cénacle pour mettre des parfums, mettre des... etc. comme Marie-Madeleine, c'était sûr, c'était pas révélé. C'est impossible. C'est une erreur. C'est illogique. C'est pas normal. Ah ouais. Donc si vous faites une retraite dans le sens de l'espérance, on vit du silence. Alors on va donc au monastère, et puis on va chez Bénédictin, chez Chartreux, chez Sainte-Bethléem, tout ça. Alors c'est, on vit que ça, parole de Dieu, sacrement, grâce, espérance, on s'appuie sur ce silence. Bon, quand c'est une retraite sur où on veut approfondir la charité fraternelle, alors à ce moment-là, on essaie de voir comment, au point de vue pratique, bon, hein, comment au point de vue pratique, notre cœur va s'épanouir dans les actes, dans les gestes. Comment est-ce qu'il faut... Mais c'est avec le cœur qu'il faut prier, hein. Quelqu'un me dit ça tout de suite, là. Mais oui, il faut prier avec le cœur, quoi. Et des choses toutes concrètes, toutes simples. Comment on fait passer l'amour de Dieu dans l'amour du prochain. Des choses... Et c'est de la vie spirituelle. Et puis comment est-ce qu'on on s'approche de cette espèce de guérison de l'affectivité pour qu'on puisse être libre pour aimer, pour pardonner, pour être délicat, pour pas exaspérer. Alors, il y a des retraites comme ça, qui sont des retraites de vie spirituelle, qui sont dans le sens, au fond, de la charité, vous voyez. Bon, nous, ce que nous essayons de faire, c'est de réveiller en nous, donc, la vie contemplative. La vie contemplative, c'est du côté de la foi. Et évidemment, la foi, c'est beaucoup plus vertical. Ça, c'est évident que la foi, c'est ce qu'il y a, c'est ce vis-à-vis de quoi l'humanité est le plus rebelle. L'intelligence pure créée par Dieu, l'ange, les anges, c'est cette rébellion qu'on appelle Satan, Lucifer, Mammon, Belzéboul, Asmodée. Baphomet, ça c'est pour les Templiers. Très à la mode, les Templiers sont baphomés aussi, c'est pas... Bon. Cette rébellion angélique, c'est parce que pour l'intelligence, la foi, c'est terrible. Aimer son prochain, aimer éternellement, aimer en toute pureté, aimer absolument, aimer d'un amour presque incréé, quasi infini, mais... On n'est pas rebelle à ça. T'es rebelle, toi, ça ? Et vous sentez bien, quand vous suivez une retraite de vie spirituelle, oh, tout cool, comme de l'huile, les mecs, oui, oui, qu'est-ce que c'était bien et tout ça. Bon, très bien. Et puis, quand on suit une retraite sur la foi, ah, oh, c'est dur. C'est compliqué. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est compliqué, vous comprenez? Parce que on dit que c'est compliqué parce que ça, on comprend pas tout. Ah, on comprend quelques petites choses quand même. On comprend quelques petites choses. Il y a des petites choses qu'on comprend. Ne me dites pas que vous n'avez, mais alors, rien compris jusqu'à maintenant. Mais alors, pas un mot. Ne me dites pas que vous n'avez rien compris. Si c'est ça, alors là, je suis très inquiet. Il a causé l'orange. Comprenez? C'est génial, ça. J'ai compris un truc. un truc. Voilà. C'est ça la vie contemplative. C'est ça la vie contemplative. La vie contemplative, c'est je saisis un truc. Je comprends pas tout. Mais je saisis un truc. Là, paf, ah ouais. Ah ouais, ouais. Ça y est, à nouveau, ça devient hyper compliqué son truc. Hein. Paf, ah ouais. Ah ouais. C'est fou. C'est ça, ça la vie contemplative, c'est ça. Et donc je comprends très bien ça. Je comprends que là, oula, oui, j'ai saisi quelque chose, j'ai été saisi, j'ai assimilé quelque chose. Ouais. Mais en même temps, du coup, grâce à ça, je comprends que tout le reste était très fort, même si je ne l'ai pas compris. Et donc je suis, comme un aspirateur, inspiré vers la vérité qui me dépasse. C'est comme ça que mon intelligence se réveille surnaturellement. Et si je refuse ça, alors à ce moment-là, je refuse que mon intelligence soit surnaturalisée par la foi. Et du coup, mon amour spirituel, entre guillemets, ne sera pas une intelligence surnaturalisée par la foi. Donc ce ne sera pas un amour brûlé par l'intelligence de la foi. Donc ce sera un amour affectif, enfin, ce sera humain, quoi. Ce ne sera pas divin. C'est la foi qui fait rentrer dans la vie surnaturelle. Ce n'est pas la charité. Et pour la foi, pour que la foi puisse rentrer dans la vie surnaturelle, il y a une grâce de lumière qui me donne un moment en disant oh, ah oui, ça me fait comme ça. Oh. Ça vient de Dieu, c'est un don. Et c'est pas vrai que ça, quelquefois ça fait ça. On dit, ah ouais. Sur ça, une grâce. Et du coup, voilà, je suis dans un. Je comprends que c'est autre chose que ce qui est à mon niveau. Parce que si je faisais de la vie spirituelle, et puis que vous comprenez absolument tout, Descartes, hein, si vous êtes cartésien, c'est-à-dire si vous êtes athée, quoi. Bon. Si vous êtes français, si vous préférez. Bon. Là, si vous êtes un bon français, c'est-à-dire un bon cartésien, donc un bon ontologiste, c'est pas, donc un bon athée, bien trempé, c'est pas, eh bien, vous dites, je veux tout comprendre. Je comprends tout, comprends tout, comprends tout, comprends tout, comprends tout, comprends tout, mon mec. Ah, j'y comprends rien. Je comprends tout, je comprends tout, je comprends tout, je comprends tout. Ah, il comprend tout, sauf quelques petits trucs, mais ça, c'est pas grave. Je veux tout comprendre. Donc, l'essentiel pour moi, c'est ce que je comprends. Ce que je comprends pas, j'oublie. Ça, c'est l'orgueil, ça. Je ne m'intéresse à la chose que comme ça. Ça, c'est l'orgueil. La foi ne peut vivre quelque chose que si elle épouse l'humilité. Ce que nous disions hier, hein, d'accord? À cause de ça. Parce que ou bien vous vivez de la foi en fonction de vous, si vous comprenez, en fonction de ce que vous comprenez. Ah ouais, c'est génial la foi, ouais, ce que je vis c'est formidable. Oh, c'est formidable, ah, puis je suis vraiment balèze, hein. Enfin, si tout le monde pouvait avoir la foi comme moi, le monde serait sauvé. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de problème dans le monde. Il n'y aurait pas de manque de respect et tout. Et les jeunes, au moins, bon, hein. Hein? Et tout ça. Comprenez? Si tout le monde croyait comme moi, ce serait différent. Hein? Il n'y aurait pas toute cette corruption, il n'y aurait pas, même en politique, ça marcherait bien. Ouais. Ouais. C'est en fonction de vous, c'est pas? Formidable. Formidable comme erreur. Et ça, c'est la structure. Vous partez de ce qui, formellement, vous, parce que vous vous tenez par vous-même, c'est vrai. Dieu nous a mis debout. On est des hommes debout. Et Jésus nous met debout. Et avec la grâce, Marie est debout au pied de la croix. C'est la femme. Elle est debout. Mais elle ne s'appuie pas sur son excellence. Elle est pourtant dans l'excellence. Elle ne s'appuie pas dessus. Elle vit de la foi. Pour elle, c'est rien du tout, ça. Elle comprend que l'essentiel, c'est par rapport à ce qui la dépasse. Et ce qui la dépasse, c'est ce qui est dans le monde incréé. Le monde de l'incréé. Elle, elle est créée. Elle est en relation avec ce qui la dépasse. Voilà, ça c'était pour reprendre. Et c'est dans cette relation avec l'incréé que nous voulons faire cette retraite. Parce que nous voulons que notre foi se réveille. Bon, c'est pour ça que vous m'avez fait plein de petits papiers. Donc, c'est bien. Vous êtes prié de me faire des papiers. J'en ai réclamé 20 pour ce matin et j'en ai qu'un. Donc, l'obéissance de la foi, hein, nul. Alors, on continue. Donc voilà, je découvre la question avec vous. Avoir la foi, est-ce que cela ne vient pas d'abord du Christ lui-même dans sa résurrection? Est-ce que la foi, ça vient de la résurrection du Christ? D'où vient la foi en nous? Marie, en tant que mère de Dieu, on l'a vu hier, elle est mère de Dieu, avant même que Jésus ne naisse. Puisque Marie, l'Immaculée Conception. Voilà le sujet de la maternité divine de Marie. Fait à l'apparition de l'ange Gabriel un acte de foi. C'est un acte de foi. Ça la dépasse, mais alors, complètement. Dans une pauvreté. C'est pour ça qu'elle dit, mais c'est... Tu es la mère de Dieu, lui dit Elisabeth. Mais tu me vois, je suis esclave, je suis nul, je suis rien. Il s'est penché sur rien. Et il a élevé l'humilité, sa servante. Et il a écrasé l'orgueil, la superbe et les riches. C'est-à-dire tous les démons. Les mains vides. Satan se trouve les mains vides. Elle a fait un acte de foi, Satan se trouve les mains vides. Et Elisabeth dit, bienheureuse celle qui a cru, béatitude de la foi. Et Marie dit, bienheureuse celle qui est pauvre, nulle, rien, humble, petite, souffrante. Parce que Marie est souffrante, quand l'ange lui apparaît. C'est tout le péché du monde. Déjà quand elle est petite, elle est écrasée par le mal qui est dans le monde. Elle est sans mal. Elle est sans péché. Alors... elle n'est rien. Donc la béatitude de la foi, Elisabeth dit, bienheureuse celle qui a cru, et elle dit, bienheureuse celle qui est toute pauvre, petite, humilité, obscurité, rien. Elle n'est rien. C'est Dieu qui... cette relation qui fait tout. Marie fait un acte de foi qui se termine au Verbe incarné. C'est-à-dire, on avait vu hier le respectus du Verbe. Éternellement, Dieu se tourne, regarde, contemple l'unité qu'il a substantiellement avec la nature humaine de Jésus. Hein, à ton avis, est-ce que Dieu, il existait comme ça avant la création du monde? T'es d'accord? Avant que quoi que ce soit ait été créé, Dieu existait. Tu es d'accord? Dieu existait avant la création du monde. Puis, le monde est créé par qui? Par lui. Puis d'un seul coup, au bout d'un certain temps, il y a Marie qui est là. Elle fait un acte de foi. Alors du coup, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ben, il regarde l'humanité. Et il va dire, mais l'humanité, je vais la prendre et je vais m'incarner. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? À un moment donné, c'était pas avant la création du monde. À un moment donné, Dieu a regardé la nature humaine qu'il va assumer dans le Christ Jésus. Est-ce que c'est à un moment donné? C'est toujours. C'est de toute éternité. Il n'a pas attendu qu'il y ait la création pour dire, tiens, je vais m'assumer un corps. Et quand Dieu a créé le monde, il regardait déjà l'humanité qu'il allait assumer dans le Christ Jésus. Et c'est parce que Dieu regardait cette humanité assumée par le Christ Jésus qu'il a créé le monde. Nous avons été créés dans le Verbe incarné. Et la création du monde entier est créée dans le Verbe. Dans ce respectus du Verbe vis-à-vis de l'incarnation. Et d'où vient ce respectus du Verbe vis-à-vis de l'incarnation? Il vient de l'acte de foi de Marie. C'est fou, ça. C'est fou! La noblesse de la foi, ça dépasse tout! Oh! L'intelligence des anges qui est des milliards de fois, plus extraordinaire, plus intime, plus lumineuse que celle de Marie, quand la foi leur est donnée, ça les dépasse aussi complètement. Pourquoi? Parce que le respectus qui a été engendré par la foi de Marie est plus grand qu'eux. Et avant eux, en plus, quelque part, dans le Bereshit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En, donc Bereshit bara Elohim, Atashamayim, ou Atasharet, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit, au commencement, dans le principe. Bereshit, dans le Bereshit, dans le commencement, dans le principe. Il y a le respectus du Verbe vis-à-vis de son incarnation. Et le respectus du Verbe vis-à-vis de l'incarnation est engendré par Marie. Et Marie viendra après le Bereshit. C'est... Ce qui montre que l'acte de foi de Marie a été si puissant qu'il a enveloppé, dépassé le monde du temps et de l'espace, du cosmique, et qui a pénétré jusque dans l'éternité, laquelle est origine le monde. Ça va? C'est pour ça que son acte de foi... Et le nôtre aussi, parce que l'acte de foi de Marie, quand Marie fait un acte de foi, elle nous communique sa foi. C'est ça la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est la foi de Marie, qui donne la nature de notre foi. Si notre foi n'est pas cette nature, c'est plus une foi chrétienne. Hein. C'est clair, ça. Bon, qui n'a pas compris? Bon, tout le monde a compris. Alors, donc, si tu donnes dans son moteur espace, c'est trop compliqué, je ne veux pas regarder. Ah bon, alors moi, je rends mon tablier. Ah, je ne crois pas. Si, bien sûr. Le prêtre, c'est le serviteur de Marie. Le baptisé, c'est l'enfant de Marie. Et la parole de Dieu est manifestée au monde à travers Marie. Le Verbe de Dieu est manifesté au monde à travers le Christ. Le Verbe, la parole du Père, le Verbe, est manifesté au monde à travers Marie. Donc il faut bien ce qu'on voit, cette manifestation, elle passe par Marie. Donc qu'est-ce que c'est que cette foi? Il faut qu'on rentre absolument dans la foi. Et une foi qui nous dépasse, c'est-à-dire une vraie foi, une foi surnaturelle. Tout ça, c'est pour justifier, hein. Je me justifie. Je vous en fais baver, mais j'ai raison de vous en faire baver. Parce que quand je vous en fais baver comme ça, j'en bave aussi. Hein. Croyez pas, pour moi, mais c'est limpide pour ça. Je vous explique que c'est pas limpide. Mais en même temps, je vous explique comment accéder à ce qui est totalement obscur pour nous. et le saisit en pleine connaissance. Parce que la foi donne la certitude, mais l'inévidence totale. C'est pas évident. Descartes, lui, ne s'appuie que sur l'évidence. Ah, mais c'est évident, formidable, ouais, c'est clair. Démonstration mathématique, mais c'est clair, c'est évident. Quand les profs de maths, hein, chaque fois, vous avez eu des profs de maths, vous voyez bien, donc c'est évident. Bon, donc on continue, ça t'as rien compris, mais pour lui, c'est évident. Hein?
Il y a des profs de maths sur la foi.
Non, mais je ne dis pas le contraire, mais en tant que mathématicien, que vous faites un prof, moi j'étais prof de maths aussi en terminale, c'est pas encore mieux. Et ben, c'est pour ça que j'ai un petit habitus de quand je vous dis tout le temps, mais c'est évident ça, donc c'est clair pour tout le monde, et hop, on continue. Ça, c'est maths, c'est le matheux qui fait ça, vous voyez. Dis bon, je fais la démonstration hyper compliquée, les hyperboles, les équations différentielles, etc. Et puis, vite, mais oui, bon, donc c'est évident, on continue, toi t'es là, pour lui, c'est évident. Bon, pour moi, c'est pas évident. Ce que je dis, ce que nous disons ici, dans le mystère de la foi, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est une certitude totale. La différence entre la certitude et puis l'évidence. La foi nous fait rentrer dans les ténèbres. Aucune évidence. Il faut donc qu'on sorte de cette habitude que nous a donné 4 siècles d'éducation gauloise, française. La France. La lumière des nations est devenue le crottin des peuples. Hein? Ah, alors donc, à partir de Clovis, on repart. On repart dans la foi lumineuse grâce au pape, grâce à Marie, grâce à l'Eucharistie, grâce à la foi surtout, comprenez? C'est les 3 blancheurs qui nous font rentrer dans le mystère de la foi. Mais comment vivre du sacrement de mariage sans la foi? Comment vivre du baptême sans la foi? Comment vivre du sacerdoce sans la foi? Faut pas rêver. Et ça nous dépasse. Mais c'est sûr, c'est vrai. Et la vérité, on est capable de l'exprimer exactement et de la formuler en totale certitude. Et l'exprimer en totale certitude, verticalement, c'est dur. C'est dur pourquoi? C'est dur pour notre besoin cartésien gaulois de dire « Waouh, j'ai tout compris, le mec Gobélix !» T'as rien compris du tout, mais t'as compris au moins une seule chose, c'est que c'est vrai, c'est une certitude. Et tu as le témoignage du Saint-Esprit. Et l'appel du Père pour aller jusqu'au bout ce que tu n'as pas compris. C'est pour ça qu'il y a cette rébellion, s'il y a cette rébellion que vous avez tous, j'en suis sûr, en disant c'est trop dur. Eh ben, c'est bon. Ça prouve que j'ai ouvert la bonne porte. Parce que vous étiez là, c'est génial, j'ai tout compris. J'aurais dit, aïe, 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 aïe. C'est purement psychologique ce que je dis. Un bon psychologue aurait dit la même chose. Ce qu'on fait à Montpellier le lundi, n'est-ce pas? Oh, comprends tout, oh, c'est génial aussi. C'est ce qu'il y a de mieux. Ben oui, c'est psychologique. C'est les blessures psychologiques, les blessures de la mémoire, le soir. Alors, oh ouais, c'est super, ouais, c'est super. Hein? Tandis que quand c'est la foi, ah! Non, non, non! Non, non, non! C'est curieux, cette espèce cette espèce d'ambiance de Satan qui nous emporte dans cette rébellion de dire non, non. Non, non, non! On est rebelles, les anges rebelles. C'est, hein? Et c'est bon de sentir qu'on a cette complicité avec Lucifer. Parmi les 7 péchés capitaux, c'est la paresse. C'est à cause de la paresse qu'il y a cette rébellion. La paresse, c'est par rapport à l'intelligence. C'est pas par rapport à l'efficacité du travail. Et quand on est paresseux, spirituellement, eh bien, on tombe dans un travail d'efficacité cartésien. Il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit efficace. Mais la fécondité, le travail qui rend une, donne une fécondité de l'intelligence, ça, on n'en veut pas. Vous voyez bien ? La paresse regarde le travail de l'intelligence. Il faut sortir du point de vue, donc, de ce qui est, de ce qu'on arrive à comprendre, à démontrer, etc. Et qu'on rentre dans l'aspect de la finalité, qui est la vérité toute pure, qui dépasse notre intelligence, mais que notre intelligence est capable d'assimiler, hein, est capable de toucher, plus exactement, et du coup, finalement, de s'assimiler cette vérité. Et il faut être contemplatif pour ça. Donc, avoir la foi, est-ce que ça ne vient pas d'abord du Christ lui-même dans sa résurrection? Ça, je suis en train de répondre à cette question, n'est-ce pas? Oui, on n'arrête pas de parler de la foi. La noblesse de la foi. Ça. Or, il se trouve que vous voyez bien tout ce qu'on a vu hier. On a vu hier que l'acte de foi de Marie, ben, Jésus n'est même pas encore là. Puisque quand Marie fait l'acte de foi, c'est ce qui engendre le mystère du respectus du Verbe vis-à-vis de l'humanité qu'il va assumer dans l'union. Ça, c'est des mots qu'il faut connaître, hein, ça, c'est vraiment les mots de la foi chrétienne. Hein, dans l'union hypostatique. Hypo, avec un Y, statique. C'est-à-dire, on demeure dans l'hypo. D'accord ? L'union hypostatique, ça veut dire que l'humanité de Jésus, la nature humaine de Jésus, subsiste dans le Verbe. Donc, rappelez-vous toujours, respectus du Verbe, ou regard, hein, respectus, c'est le latin pour dire regard perpétuel du Verbe. Donc, l'humanité de Jésus subsiste dans le Verbe. Définition dogmatique, je vous l'ai dit, pour Saint Athanase. Et le Concile, grâce à quoi Saint Athanase a brisé l'hérésie arienne. Et on a précisé que l'humanité de Jésus subsiste dans le Verbe. Saint Athanase, c'est vieux, vous savez, c'était pas l'année dernière, hein. Donc, j'ai à peu près 15 siècles de christianisme où, donc, c'est pas pour les gens hyper intello qui sont, parce que l'intelligence s'est développée, hein. Donc, on est devenu hyper intelligent maintenant. Au Moyen-Âge, c'était des barbares. Des barbares! Des boueux! Et avant le Moyen-Âge, c'est des primitifs! Eh bien, c'est primitif, les mecs. Ils comprenaient très bien. Et ils savaient tous ce que ça voulait dire. L'humanité du Christ subsiste dans le Verbe. Subsistance, union hypostatique, ils savaient tous ce que c'était. L'humanité du Christ subsiste dans le Verbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... C'est des choses hyper importantes, ça. Tu as une humanité, tu as une nature humaine, et elle subsiste. Tu existeras toujours. Dieu t'a créé, donc tu l'être, quand Dieu crée quelque chose, il subsiste toujours. Bon. Il t'a créé. Moi, c'est pareil. Hein. On est la même race. Donc, ça, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que tu es une personne humaine. Parce que ta nature humaine, elle subsiste dans ton être humain qui a été créé par Dieu. Et ton être humain unifie en toi tout ce que dans ta nature comporte. Ton être qui est créé par Dieu unifie l'âme spirituelle, le corps. Toute la vitalité qui est en toi, toute la spiritualité, toute la dimension de vie spirituelle qui est en toi, l'âme spirituelle, et toute la dimension incarnée, le corps. L'être unifie tout ça. Et l'être vient de Dieu, en ce moment. Le fait que tu existes, ça vient de Dieu. Et cet être-là, qui unifie les trois aspects, les trois dimensions de ta nature humaine, c'est ça qu'on appelle une personne. Hein? Si vous lisez l'évangile de la vie du Saint-Père, que le Saint-Père vient de sortir, quand il dit personne, ça veut dire un être créé par Dieu, qui unifie la vitalité intérieure, l'âme spirituelle et le corps. S'il n'y a pas d'âme spirituelle, il n'y a plus de personne. Ça va ?
La personne est un élément essentiel de la personne.
L'âme spirituelle fait partie essentielle de la personne.
Oui, mais pourtant, pour qu'il y ait personne, il faut aussi l'âme vitale et le corps, non ?
Ben oui. C'est pour ça que quand tu meurs et que le corps, tu abandonnes ton corps à la mort, tu n'es plus vraiment une personne. Tu es une personne en puissance, tu n'es pas une personne en acte. C'est pour ça qu'il y a l'appel à la résurrection du corps. Donc toi, ta nature humaine, ton humanité, alors il faut connaître ce langage, hein, parce que c'est à travers la parole de Dieu qu'on peut rentrer dans le sein du Père, dans le principe même. Alors, c'est pareil pour la foi. C'est à partir des paroles de la révélation qu'on peut rentrer dans l'union transformante. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître ces termes-là, ces mots. Hein? Donc, toi, tu subsistes dans ton être. C'est pour ça que tu es une personne. Eh bien, Jésus, lui, il a une nature humaine. Corps, vitalité intérieure, âme spirituelle. Oui? Il a bien ces trois-là. Eh bien, ces trois-là, ce qui fait leur unité, c'est pas une personne humaine. Jésus n'a pas de personne humaine. Jésus, alors ça, faut le marquer en très gros, Jésus n'est pas une personne humaine. Ah, ça choque, hein? Ça veut dire que ces trois aspects de la vitalité intérieure, de l'âme spirituelle et du corps, ne trouvent pas leur unité dans un être créé par Dieu. Ils trouvent leur unité dans un être incréé. Et cet être incréé s'appelle le Verbe de Dieu. C'est Dieu. Dans Jésus, il n'y a pas deux personnes. Il n'y a pas deux. La personne, c'est un principe d'unité. Il n'y a pas une personne humaine et une personne divine. Il n'y a qu'une seule personne. Et cette personne, c'est un être incréé. C'est l'être premier, Verbe de Dieu. Oh, comme c'est important, ça. On appelle ça l'union, ce que je viens de vous dire, union hypostatique. Jésus subsiste, Jésus homme, subsiste dans le Verbe. Oh, comme c'est important, ça.
Là où je ne me suis pas, c'est que le Christ en tant qu'homme, il a une nature humaine.
Alors, le Christ en tant qu'homme. Là où tu ne me suis pas, c'est que tu dis que c'est que le Christ a une nature humaine. Oui, bien sûr, il a une nature humaine. Et pourquoi tu ne me suis pas? Parce que je dis qu'elle subsiste dans le Verbe.
Et il n'a pas une personne.
Alors, il n'est pas une personne humaine. Pourquoi? Parce que c'est un homme. Hein? Il est pleinement homme. Puisqu'il a une âme, une vitalité intérieure, une âme spirituelle et un corps. Et le tout dans une unité totale. Mais d'où vient cette unité? Cette unité vient-il d'un acte créateur de Dieu? Il a été créé. Cette personne a été créée par Dieu. Pour nous, c'est le cas. Notre être vient de Dieu. Mais l'être de Jésus ne vient pas d'un acte créateur de Dieu, puisque c'est Dieu lui-même. Donc il est pleinement homme, puisque ce qui fait l'homme, c'est l'âme spirituelle liée à un corps dans une unité substantielle. Mais la subsistance de cette unité substantielle, ce n'est pas dans un être humain créé, c'est dans l'être divin incréé. Donc il est pleinement homme et pleinement Dieu. Il a donc la nature humaine et la nature divine. Mais il n'y a qu'une seule personne. Et cette personne, c'est le Verbe. Et c'est quand même hyper important, ça.
À partir de quand on a...
Oh ça, c'est tout à fait au début, c'est dès qu'il y a eu Arius. Hein.
Oui, c'est ça.
À l'époque de... Hein? À l'époque d'Arius, l'Arianisme, alors ben, ça a été tranché, mais c'était tranché avant. Tout le monde savait ça avant. Mais il a fallu le formuler avec ces mots-là il y a 1500 ans. Et depuis, tout le temps, au Moyen-Âge, tu ne passais pas ton bac hein, si tu n'avais pas lu tout saint Thomas hein, au XIVe siècle. Hein. Tu ne passais pas ton bac. Hein. C'est vrai. Le bac à l'époque, c'était ça. C'est des barbares. Hein. Moyen-Âge. Rétrograde, là. Des rétrogrades, le Moyen-Âge. On croit rêver quand on entend ça, c'est à la télé et tout. Bon. Hein?
Thomas d'Aquin, pour les cours que je suis, c'est rien du tout. Ça me dépassait.
Ah non, oui, ça c'est clair. Bon, alors vous comprenez bien. La foi, elle atteint quoi? Notre foi, elle va vers, nous met en relation avec quoi? Quel est l'objet de la foi? La foi est objective, hein. La vérité donc, c'est la vérité, c'est objectif, c'est réel. Elle atteint quoi comme objet? Elle atteint Jésus? Oui, elle atteint Jésus. Mais en Jésus, elle passe par Jésus comme image, comme voile, comme manifestation, mais elle atteint la substance même de Jésus. Et la substance même de Jésus, c'est la personne du Verbe qui fait subsister son humanité en lui. Ça va? C'est pour ça que saint Augustin dit que la foi, c'est, évidemment, c'est de se tourner vers Jésus. Ça, on est d'accord. Pour nous, c'est de se tourner vers Jésus. Mais elle ne s'arrête pas à Jésus. Elle prend Jésus, se colle à Jésus, et elle rentre, comme vous rentrez, je ne sais pas moi, dans la crème, vous rentrez dans le corps glorifié de Jésus. Il est quand même subtil, agile, glorieux, donc c'est une liqueur délicieuse, comme dans le Cantique des Cantiques. Vous pénétrez doucement, glorieusement, délicieusement en Jésus, et en Jésus, vous essayez d'atteindre le solide. Le roc solide, Jésus, c'est mon roc. Et le roc solide de Jésus, c'est justement ce fait qu'il est Dieu et son être, là, j'atteins la personne, et c'est Dieu qui assume son humanité, et du coup toute l'humanité, toute la création. L'acte de foi de Marie, quand elle a été mère de Dieu, n'avait pas encore Jésus comme nous. C'est pour ça que l'acte de foi de Marie est très particulier. Et il nous montre qu'à chaque fois qu'on fait un acte de foi, on se sert de Jésus, mais on ne s'arrête pas à lui. Elle ne s'arrête jamais. Quelle est celle-ci qui court dans le désert? Comme si les anges dans le Cantique des Cantiques, que c'est cela. Oui, alors, elle rentre, ça. Et elle atteint, tout de suite, l'ange Gabriel lui dit, et tout de suite, elle dit, fiat, foi. Et sa foi, donc, se termine au mystère du Verbe incarné dans le respectus. Et comprenez, c'est grâce à ça qu'il y a ce respectus. Alors, donc, ça, c'est ce qu'on avait vu hier. Il va falloir continuer, parce que vous comprenez que si la foi a été en chrétienne, hein, si la foi chrétienne a été engendrée par le premier acte de foi de Marie, c'est là, elle, là, Abraham, c'est le premier à avoir eu la foi dans l'Ancien Testament, donc la foi dans le fait que Dieu se révélait. Dieu donne, se révèle lui-même. La foi dans le fait que Dieu doit se révéler aux hommes, c'est Abraham. Et à partir d'Abraham, tous ont eu la foi. Et nous tenons notre foi d'Abraham. Mais la foi devient chrétienne avec Marie. Et donc la foi d'Abraham va se préciser. si vous voulez, va faire un saut, une conversion prodigieuse, une mutation. Et cette foi de Marie, la première foi qui est la nôtre, hein, qui ne supprime pas la foi d'Abraham, que Dieu se révèle, mais elle atteint quoi? Elle atteint donc le Verbe incarné qui va s'incarner. Le Verbe qui s'incarne, qui sans arrêt décide, regarder son humanité, qu'elle va, qui va s'assumer. Et c'est éternel, ça. Alors, ça, cette foi-là, qui est la foi chrétienne, c'est celle qui nous montre qu'est-ce que c'est que notre foi à nous. Ça marche. Et Jésus n'était pas ressuscité, là. Donc la foi ne vient pas de la résurrection.
Elle est éternelle en même temps, elle est éternelle. Qui fait que Moïse avait la foi ou Marie, c'est pas le par la résurrection, c'est une grâce, la foi, c'est donné par la grâce, c'est grâce.
Oui,
oui. La grâce provient de l'humanité.
Oui.
Alors,
la grâce est un don de Dieu, et justement, c'est ce qu'on va voir. Ici, on est en train de regarder, ce que je voudrais regarder avec vous, c'est comment la maternité de Marie, on peut dire qu'elle est divine. La maternité de Marie est divine en raison de son terme. Le terme auquel aboutit la maternité divine de Marie, le terme, c'est le respectus du Verbe vis-à-vis de son incarnation. Et ça, c'est incréé, c'est éternel.
Est-ce qu'elle engendre le Verbe à elle-même? Elle engendre le respectus, c'est pas le Verbe.
Voilà, elle engendre.
C'est ça,
elle engendre.
Le Verbe du respectus de...
Elle engendre, dans la personne du Verbe, une opération éternelle.
Oui.
Or, l'opération en Dieu... La vie en Dieu et l'être de Dieu sont la même chose. Donc, elle engendre vraiment quelque chose qui correspond à la personne même du Verbe. La maternité divine se termine vraiment au Verbe. Elle ne se termine pas au fait que, voilà, au corps de Jésus. Voilà, je suis la mère du corps de Jésus. Non, non. Voilà, j'engendre le corps de Jésus. C'est ça, moi, être position de Luther. Hein. Donc, C'est-à-dire que pour lui, la foi, la foi chrétienne se termine uniquement au sang de Jésus, quelquefois, ou au corps de Jésus, je ne sais pas. Lequel corps de Jésus nous met au ciel, mais ne nous change pas du coup. Tandis que par la foi, nous sortons de notre condition, hein, nous sortons de notre condition et on est entièrement divinisé. Donc on est changé. C'est la différence. Donc la maternité divine de Marie, elle est divine par son terme. C'est pour ça qu'on dit mère de Dieu. On va voir, si on a le temps, qu'elle est divine par son mode et qu'elle est divine par son acte. Elle est divine par son sujet, si vous voulez, elle est divine par son fondement, elle est divine par son terme. Elle est divine par son terme, c'est le respectus du Verbe. Mais on verra demain, je pense, qu'elle est divine par son mode. On va regarder quelle est la foi de Marie. C'est une foi remplie de charité. C'est une foi remplie de charité et d'amour, hein, les deux. Or, l'amour, c'est incréé. La charité, c'est surnaturel. Et c'est ce qu'on verra demain. Elle est divine par son sujet, l'acte de foi de Marie, parce qu'il s'origine en réalité dans l'Immaculée Conception. Et donc, je rejoins, enfin, c'est ta question, ça, hein, à propos de la résurrection, n'est-ce pas? C'est toi, c'est ta question? Bon. Elle est divine par son sujet parce qu'elle est Immaculée Conception. Mais l'Immaculée Conception vient d'où? Non pas de la résurrection, elle vient de la mort du Christ et de la blessure du cœur. N'oublie jamais ça. Voilà. Mais ça, on verra ça après-demain. Donc, la maternité divine de Marie, elle est divine sous tout rapport. Quand on dit que Marie est mère de Dieu, c'est une relation. Donc, une relation implique un sujet, un fondement et un terme. Eh bien, Marie est mère de Dieu sous tous les rapports. C'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Et à partir du moment où on a compris ça, quelque part, si on a compris à quel point c'est clair, c'est certain, c'est pas évident, hein, c'est bien sûr que c'est pas évident, eh bien, du coup, on va pouvoir comprendre comment nous allons nous élever à la fois. Surnaturellement parlant. Comment nous allons nous élever à la charité et de la charité à l'amour incréé de l'Esprit-Saint.
Marie est mère de Dieu et donc mère de la Trinité Sainte.
Alors, justement, elle n'est pas mère de la Trinité Sainte parce que le respectus, parce qu'elle n'engendre pas la Trinité toute sainte. Parce que la Trinité toute sainte n'est engendrée par personne. La Trinité toute sainte, c'est un engendrant incréé éternel. Et il trouve son engendrement en lui-même. C'est pour ça qu'il y a la simplicité de Dieu. La première chose qu'on découvre en Dieu, c'est qu'il n'est engendré et créé et reçu dans son être et dans sa vie par personne d'autre que lui-même. Il est infiniment simple. Il n'y a aucune composition. Il n'y a pas deux en Dieu. Un engendrant, un engendré. C'est un engendrant, engendré, un engendré, engendrant. C'est un être incréé. Il n'est reçu par personne, ce que nous avons vu donc hier matin. C'est d'abord, la première attribut divin, c'est la simplicité dans l'ordre de l'être. Aucune composition. Donc Marie n'est pas mère de la très sainte Trinité. Mais à l'intérieur de la très sainte Trinité, il y a un qui est engendrant, c'est le Père, et un qui est engendré, c'est le Fils. Et la foi permet à Marie de pénétrer dans cette relation entre l'engendrant et engendré, entre le Père et le Fils, et du coup d'être glissée et être dans cette relation de l'engendrement. Et elle va donc engendrer le Verbe de Dieu. Par participation. Bien sûr, c'est une participation. C'est ce qu'on verra demain à propos de la manière dont cette foi va pénétrer dans la relation. Mais tu comprends bien qu'elle est donc mère du Verbe, et surtout pas du Père, et vous êtes esprit. C'est pour ça qu'on dit que la foi catholique, dans le concile, je ne me souviens plus de Calcédoine, sans doute, je ne me rappelle plus très bien, disait que celui qui dit que l'Esprit Saint est engendré a perdu la foi apostolique. L'Esprit Saint n'est pas engendré. L'Esprit Saint, ce n'est pas le Fils du Père et du Fils. Pourtant, l'Esprit Saint vient de l'unité du Père et du Fils. Il en émane. Oh, comme c'est important, ça aussi. Oh, comme c'est important. Puisque la vie chrétienne consiste à vivre de la très sainte Trinité. Elle consiste à être en face du Père comme le Fils, et à être dans le Père et le Fils brûlé par l'Esprit Saint. Donc si j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire que l'Esprit Saint n'est pas engendré, je vois pas du tout ce que ça veut dire. De toute façon, ça sert à rien. Et bien ça veut dire que... Et je veux pas faire l'effort, hein. Je veux pas rentrer. Ah bon, ben, tu veux pas rentrer dans ce qui fait l'essence même, le centre de la vie chrétienne, dans son objet final, dans sa finalité. Or, la vie chrétienne nous met tout de suite face à notre finalité. Hein. La cause formelle, c'est ce qu'on vit, on a la foi, et moi j'ai la foi. Bon, si tu pars de toi, ça va pas. Il faut partir de la cause finale, toujours. Et la cause finale nous dépasse. Donc, vous voyez, je l'aurais dit 800 fois, ça. Hein. Donc, alors, le respect du Verbe vis-à-vis de la carnation. Donc, ce n'est pas à partir donc, de la résurrection. On le voit bien, Marie est mère de Dieu. Le fait que Marie est mère de Dieu nous fait comprendre que la foi ne vient pas de la résurrection de Christ. Ça marche ?
Donc, la foi de Moïse, non plus.
Pour les apôtres, oui, le Christ est ressuscité. Et du coup, il peut envoyer l'Esprit Saint. Et du coup, il croit. Mais ils n'avaient pas cru parce que l'Esprit Saint n'avait pas encore été envoyé, dit Saint Jean dans l'Évangile.
L'Esprit Saint, c'est pas la, c'est pas la grâce. L'Esprit Saint donne pas la foi, vraiment. Entre le don de l'Esprit Saint et la vertu théologale.
C'est ce que nous verrons demain dans le mode, dans le fondement, donc dans la manière, dans la modalité dont la foi a atteint précisément, a engendré le spectus du Verbe vis-à-vis de l'incarnation. Et on va voir comment notre foi doit faire pareil. Hein. Donc, si on fait ça, c'est pas inutile. C'est pour que nous montrer le chemin, la voie, la vérité, la vie chrétienne. C'est pas inutile du tout. Et qu'on fasse ce discernement, parce qu'on est des adultes dans la foi quand même, dire savoir si c'est un acte de foi surnaturel ou un acte de foi religieux, quoi, naturel. Comme les bouddhistes, comme les musulmans. Est-ce qu'on est, à quel moment, ou alors c'est psychologique, c'est l'impression, on a l'impression d'avoir la foi. Il faut quand même qu'on fasse ce discernement, de savoir quand il y a eu un acte de foi, quand il y a eu un acte de croyance en Dieu, quoi, vaguement, comme les musulmans, ou une impression qu'on a la foi. Ah ouais, j'ai vraiment l'impression que je dis ça, quoi. C'est bien du tout. Il faut faire du discernement, c'est vachement important, ouais. Bon, on en était là. Deuxième question. Hypostatique. L'humanité de Jésus subsiste dans le Verbe. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je viens d'expliquer que l'humanité de Jésus subsiste dans le Verbe. Je le réexplique parce qu'il faut réexpliquer ces choses-là. Regardez. Moi, je suis devant vous. Mais vous pouvez faire chacun d'entre vous. Hein. Je me touche. Je vois que j'ai un corps. Celui qui me dit que j'ai pas un corps, je lui donne un coup de pied aux fesses. Pas la peine qu'il continue, il peut partir tout de suite à Montpellier. Bon. Deuxièmement, je rentre à l'intérieur de mon corps, il est vivant. Il y a une vivification de ce corps. Ce corps est actué par une vitalité, une source de lumière et de vie. Sa vie, quoi, là-dedans. C'est vrai ou pas? Bon, celui qui comprend pas ça peut rester, parce que c'est pas impossible qu'il puisse finir par comprendre. Troisièmement, ça c'est de la philosophie, ça, donc c'est pas la foi. Pour ça, ça ne nous dépasse pas du tout. Troisièmement, je me rends compte aussi que si j'en reste au fait de ma vitalité intérieure et puis de mon corps, ça ne suffit pas. Je vois que si je reste là, avec ça seulement, je suis une statue de sel. Hein, la femme de Lot. Il y a l'esprit aussi. Je dépends des autres, je dépends d'un autre. Je ne suis achevé que par l'autre, par celui qui me dépasse. La personne que Dieu a mis proche de moi me dépasse. C'est un mystère. Toute personne est un mystère. L'esprit est en moi. Je suis appelé à l'amour. Tout seul, je suis rien. Mais uni. L'époux et l'épouse sont quelque chose. Seuls, ils ne sont rien. Et donc, c'est l'autre qui m'achève. La réalité humaine la plus parfaite, c'est l'homme, elle est la seule qui trouve son achèvement dans un dépassement de ce qu'il est. Ça, c'est la vie spirituelle. Donc, j'ai aussi un esprit, une âme spirituelle. Ça, qui est-ce qui ne le comprend pas? Tout le monde le comprend.
C'est ce que vous disiez, c'est une distinction entre la vie et l'esprit.
Non, on est d'accord. Vitalité, bon, c'est dit vitalité, puis âme spirituelle.
C'est parce que vous dites qu'il ne faut pas séparer, il faut séparer l'être de la vie. L'être de la vie, l'être n'est pas l'esprit, puisque l'esprit est vivant.
J'y viens. D'accord. Donc, vous êtes d'accord que vous constatez ces trois choses-là. Mais ces trois choses-là, c'est pas comme sur la table où je mets des carottes, je mets de la flotte et puis je mets une assiette. Fêlée, en plus. Ouais, parce que mon âme spirituelle est fêlée, que c'est originel. Hein. Bon, d'accord. C'est pas trois choses séparées. C'est une seule chose. Je suis une seule personne. Donc ces trois aspects sont unis substantiellement. C'est ça, le fait que j'existe. J'existe l'être. C'est unifie le corps, la vitalité intérieure, le monde intérieur qui est mien, qui est vivant, et puis l'âme spirituelle. Ces trois sont unis, substantiellement. C'est ça, l'être humain. Et cet être humain qui unifie le corps et l'âme et l'esprit, c'est créé par Dieu. C'est Dieu qui fait que j'existe dans l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit. D'accord? Ça veut dire donc que mon corps, mon âme et mon esprit sont vitalement et substantiellement un dans ma personne. Ce qui veut dire donc que mon corps et mon âme spirituelle subsiste dans mon être. L'humanité de Jésus, donc son corps, son âme et son esprit, subsiste aussi dans son être à lui, mais son être n'est pas un être créé par Dieu, c'est Dieu. Il n'a pas d'être créé par Dieu. Ce qui fait l'unité entre son corps, son âme et son esprit, mais son âme spirituelle, ce qui fait l'unité, c'est l'être éternel du Fils, du Verbe, enfin de Dieu lui-même, incréé, qui unifie son corps, son âme et son esprit. Parce que nous, non. Ce qui unifie mon corps, mon âme et mon esprit, c'est l'être créé par Dieu. C'est ça que ça veut dire. L'humanité de Jésus subsiste dans le Verbe. Ça veut dire qu'il est eu Dieu et homme dans l'union hypostatique. Ça va? Donc, je l'avais déjà dit, mais je l'ai peut-être redit d'une autre manière, je ne sais pas. Non, je crois que je dis exactement de la même manière, mais quand on répète deux fois, c'est mieux. Ça, c'est comme le clou. France. Alors, troisième question. Dans quel sens l'engendrement par Marie du respectus du Verbe vis-à-vis de son incarnation revient à l'engendrement du Verbe lui-même? Donc ça, je l'ai expliqué. Mais il faut toujours reprendre une question, il faut toujours la reprendre. Donc, quand on pose une question, il ne faut jamais refuser de répondre à une question. Parce que si on pose la question, ça prouve qu'on n'a pas pêché. Donc il faut creuser ça, ok? Bon. Donc on avait vu hier.
Excuse-moi, quand on dit qu'il engendre le Verbe, elle engendre le Verbe dans sa position personnelle. C'est-à-dire, pourquoi engendre le Verbe? Le Verbe n'en vient pas engendre la Trinité, c'est parce qu'elle engendre non pas au niveau de la substance de Dieu, mais au niveau de personne. Est-ce qu'on peut dire qu'elle engendre Dieu au niveau de la
divinité? Non, mais là, tu empiètes sur ce qu'on va regarder dans la divinité de la maternité de Marie, dans son fondement. Hein? Là, on regarde le terme. Le terme, c'est que Dieu s'est fait homme. Voilà ce que Marie a engendré. Elle a engendré l'incarnation. Et l'incarnation, c'est une union hypostatique. Et au niveau donc de l'être et de la personne, l'union hypostatique, c'est incréé. C'est Dieu lui-même. Donc elle a vraiment engendré Dieu. Parce que c'est incréé. Mais en Dieu, donc, c'est le respectus du Verbe vis-à-vis de son incarnation. Alors, est-ce qu'elle a engendré le Verbe lui-même de toute éternité avant son incarnation? Non, ça c'est le Père qui engendre éternellement un Verbe en lui-même, puisque c'est ce qui constitue la Très Sainte Trinité. Sinon, elle serait mère de la Très Sainte Trinité. Pourtant, elle est quand même mère du Verbe incarné. Mais le Verbe incarné, c'est Dieu, hein? Et c'est éternellement Dieu. Et avant la création du monde, c'est le Verbe qui regarde l'incarnation éternellement. Et c'est ce regard éternel, avant la création du monde, hein, enfin, qui est engendré par Marie. Donc c'est ce que nous avons vu. Il ne me reste que 10 minutes pour avancer.
Créé, oui.
Oui. Ah oui, Marie est mère de Dieu. Marie est un sujet, un être créé qui engendre qui engendre le Verbe incréé dans son respectus vis-à-vis de son incarnation. Bon, donc nous avons vu hier, rappelez-vous ce que nous avons vu hier, je résume si vous voulez en deux mots. Entre, quand on dit que Marie, en ce moment on est en train de regarder que Marie est mère de Dieu. Hein. Pratiquement, je crois qu'on n'aura peut-être pas tout à fait le temps, mais ce que j'aurais voulu c'est arriver à Marie reine. Hein, parce que je tiens beaucoup à ce qu'on sache ce que c'est que Marie-Reine. Voilà. Bon, mais j'ai l'impression que ce que Marie-Reine, c'est à partir de Marie-Mère de Dieu. Hein. Avant Marie-Mère de Dieu, il y a Marie Immaculée Conception. Et après Marie-Mère de Dieu, il y a encore l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception est en puissance. Le mystère de l'Immaculée Conception est en puissance. Se manifestera par la maternité divine, l'Immaculée Conception, c'est pour qu'elle soit mère de Dieu. Ce que nous verrons dimanche matin. Mais la mère de Dieu est en plénitude reine. À partir du moment où l'Immaculée Conception est en acte. L'Immaculée Conception, c'est une potentialité. Elle a une plénitude de grâce pour pouvoir devenir mère de Dieu, mais mère de Dieu jusqu'au bout. Pas seulement sur cette terre, par son acte de foi, mais aussi dans l'incréé éternel, dans sa gloire. À ce moment-là, l'Immaculée Conception est parfaite, elle est en acte. Ici, l'Immaculée Conception est en puissance avant la maternité divine de Marie. Et quand la maternité divine de Marie est là, ça y est, elle est en route vers la perfection et l'épanouissement total de toutes les potentialités de son Immaculée Conception. Elle est en acte. Et quand elle est en acte, on dit qu'elle est reine. Parce que du coup, elle a une fécondité différente que celle que lui donne la fécondité de l'acte de foi. Au ciel, il n'y a plus d'acte de foi. Mais continue dans un mot. D'une manière différente. Elle est reine. Donc c'est pour ça que c'est le but, vous comprenez? C'est pas rien. Donc quand on dit... Hier, je résume pour les pauvres qui n'étaient pas là, parce que c'était quand même vachement, c'était fouillé. Hein. Bon, mais c'est pas du tout inintéressant, hein, attention. Alors, Marie Mère de Dieu, c'est une relation. Toi, t'es là, Descartes. Mais il y a quelque chose qui te dépasse, Descartes. Tu t'en doutais pas, hein? Lui, il disait cogito. Je pense tout ce que je pense, donc je suis. Voilà, tout s'arrête là. Je pense tout ce que je comprends, donc je suis. Il s'arrête là. Je te dis imbécile de Descartes. Tu existes et tu viens de quelque chose qui te dépasse. Tu existes. Et du coup, il faudrait peut-être que tu penses, que tu sortes de ta pensée. Il faut que tu rentres dans la vie contemplative. Donc, vous voyez, donc c'est une relation. La relation, c'est Marie. Elle pense. Marie est intelligente, elle est extraordinaire, une plénitude de grâce. Mais elle pense qu'il faut qu'elle sorte de sa pensée. Et il faut qu'elle sorte de la potentialité de son Immaculée Conception pour rentrer donc dans ce qui dépasse l'Immaculée Conception, la maternité divine. C'est ça l'acte de foi, ok? Donc, l'Immaculée Conception, c'est une relation réelle. C'est bien réel. La relation qu'elle a entre elle, l'Immaculée Conception, et le dépassement de l'Immaculée Conception par la foi. Et cette relation, c'est entre elle et l'humanité du Christ, l'humanité du Christ dans son être. Parce que l'être du Christ, c'est Dieu, c'est un être incréé. C'est une relation entre Marie et l'humanité du Christ dans son être incréé, éternel. C'est Dieu qui est atteint. c'est dans le respectus du Verbe, si vous préférez, vis-à-vis de l'incarnation. Bon, ça, numéro un. Numéro un. C'est une relation réelle, ça. C'est réel. Sinon, si c'était pas réel, il n'y aurait pas eu d'incarnation. Donc, Jésus ne serait pas venu. Or, tu es au courant que Jésus est venu. Même les rois mages, ils l'ont vu, alors. c'est vrai. Non, je ne vais pas raconter des histoires. Alors, deuxièmement, Marie. Il y a une autre relation. Marie, donc numéro 1. Numéro 2. Marie est mère de Jésus. Elle est mère de Jésus. Donc c'est mère de Jésus. Mère de Dieu, c'est ça? Mère de Jésus. Elle est mère de Jésus. La mère de Jésus y était. Noce de Cana. La mère de Jésus y était. Ah, donc l'acte de foi qu'il y a à Cana va correspondre à une autre relation. C'est la relation qu'il y a entre Marie dans son humanité, dans sa plénitude de grâce. Et il va y avoir un acte de foi de Marie, hein, à Cana. Il faudra absolument qu'on regarde aussi, d'ailleurs. Et ça se termine à quoi? Ça se termine à l'humanité, donc, de Jésus. C'est l'humanité toute sainte du Christ. L'humanité du Christ. Elle est vraiment mère de Jésus. Mais c'est autre chose, le fait qu'elle soit mère de Jésus. Vous comprenez ça? Ça, c'est une relation réelle aussi. Relation réelle numéro 2. Mais, pour pouvoir être mère de Jésus et en même temps mère de Dieu, il faut qu'elle soit, elle, Marie, dans son Immaculée Conception, relative. Alors, il faut qu'elle soit, elle, Marie Immaculée Conception, relative, entièrement relative au Verbe de Dieu, indépendamment de son humanité, indépendamment du respectus de ce Verbe vis-à-vis de son humanité. Il faut qu'elle soit relative au Verbe. Kybéo. Je suis la mère du Verbe. Alors, comment ça se passe ici? Ici, je suis relative au Verbe, c'est ce que lui dit l'ange Gabriel. T'inquiète pas, ça, c'est autre chose. Tu seras obombré. Il y aura la survenue, et du coup, elle va être, par un miracle, par une opération miraculeuse, elle sera dans son corps, élevée, et vivifiée, transplantée, dans la procession qu'il y a entre le Père et le Fils. Le Père éternellement engendre en lui un Verbe. Que j'expliquais au petit garçon hier. Quand Dieu il contemple, Dieu contemple, Dieu contemple, et puis Dieu, et c'est extraordinaire de contempler Dieu. Mais quand tu contemples Dieu, tu ne contemples pas rien. Hein? Donc Dieu contemplé, c'est pas rien. C'est Dieu. Bon, Dieu contemplé, c'est le Verbe. Et quand Dieu contemple son Verbe, il ne fait pas rien. Dieu qui contemple, c'est le Père. Mais c'est quand tu contemples que du coup, la contemplation est là. C'est quand Dieu est Dieu, le Père, que du coup, il engendre une contemplation en lui. Il engendre cette contemplation en lui éternellement. Donc quand tu dis que j'engendre quelqu'un, tu dis bien que c'est ton enfant, c'est ton fils. C'est pour ça que le Verbe de Dieu, c'est le Fils du Père. Oui ou non? Donc, par une très étonnante miracle, le corps de Marie, l'humanité de Marie, en raison du privilège de son Immaculée Conception, est élevé dans son unité corps, âme et esprit, à participer à cette vision que Dieu a quand il contemple Dieu. Le Père contemple Dieu. Et elle contemple ce que, avec le Père, Dieu. Et du coup, comme quand le Père contemple, il engendre cette contemplation, il engendre le Verbe, l'engendrement de cette contemplation passe par elle.
C'est ce qu'on va lire au ciel.
Ah non.
Ah non, on
repasse pas. Ah non. Comprenez que ça, c'est des choses qu'on ne doit pas comprendre avec notre intello. Hein. C'est quelque chose qu'on doit saisir. Hein. Il faut le saisir. Exactement. Parce que ça nous dépasse, mais grâce à ça, c'est spirituellement qu'on en vit. C'est pas rationnellement qu'on en vit. Il y a un démon frappeur. Allez, allez, arrière, tais-toi.
Ça marche pas.
Bon, allez, si ça marche très bien. Donc, voyez bien. Allez bien. Donc, il y a une troisième relation, qui est une relation entre donc Marie et le Verbe de Dieu. Et cette troisième relation, c'est pourquoi ? Parce que si elle veut être mère de Dieu dans cette relation réelle numéro un, qui lui permettra ensuite d'être mère du Christ, donc de participer à la rédemption, hein, mère du Christ. Mère de Dieu, participer à l'incarnation, c'est pour qu'elle soit mère du Christ, participer à la rédemption. Co-rédemptrice. Cana, hein, donc. Pour ça, il faut qu'elle puisse être élevée à une relation vraie, en tout cas, une relation en toute vérité, en esprit en vérité, une relation qui la met en dépendance, en relative, toute relative au Verbe. Et qui est relatif au Verbe de Dieu ? C'est le Père. Le Père est l'origine du Verbe de Dieu, puisque le Père de Dieu, le Père du Fils, le Père du Fils, c'est bien une relation. Le Père engendre un Fils. Qui est en relation avec le Fils ? C'est le Père, uniquement le Verbe. Dans la presse. Donc, vous comprenez bien qu'il faut que Marie puisse être toute relative au Verbe de Dieu. Donc, il faut qu'elle soit épouse du Père et qu'elle vive ce que le Père vit. Ça ne peut se faire que par un miracle. Donc l'acte de foi de Marie, c'est ce qu'on verra demain aussi, est enveloppé par un miracle, et c'est ce qui est indiqué par la Bible. Hein. Donc on va relire demain, cette fois-ci, la Bible, et pour voir qu'il y a ce troisième aspect de la relation. Marie est toute relative au Verbe. Ça, c'est la condition sine qua non, numéro 3. Elle doit être tout à fait relative au Verbe dans son être même. Et c'est du coup, bon, ça je vais laisser tomber ça. Bon. Alors, donc, quand on dit que Marie est mère de Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donc trois choses. Un petit peu comme le corps, l'âme et l'esprit se nouent dans une seule réalité subsistante. La maternité divine de Marie, c'est que ces trois relations sont nouées dans une seule relation. Ces trois relations, la relation vis-à-vis du respectus du Verbe vis-à-vis de son incarnation, la relation vis-à-vis du Christ dans son être, la relation vis-à-vis du Verbe dans son être. Et ces trois sont ensemble ce qui structure au sens strict la maternité divine de Marie, qui nie, c'est un nœud entre ces trois relations réelles, et du coup elle produit un fruit créé et un fruit incréé.
Donc il y a cinq aspects, vous voyez, dans la relation de maternité divine. Je répète ou pas? Je répète. Il me faut mes pompes. Je répète, j'efface ici pour voir. Donc trois choses. La maternité divine de Marie. Vous n'êtes peut-être pas obligé de la prendre par cœur, mais enfin. La maternité divine de Marie. C'est ce qui nous, le nœud, c'est ce qui nous, ce qui lie, c'est ce qui lie, c'est ce qui nous, les trois relations réelles de Marie, ces trois relations réelles, la relation qu'elle a vis-à-vis du respectus du Verbe, vis-à-vis de son incarnation, respectus incréé, la relation qu'elle a avec l'humanité du Christ, et le fait qu'elle soit totalement relative au Verbe dans son union avec l'engendrement éternel du Père vis-à-vis de son Verbe. La maternité divine, c'est ce qui nous, ces trois relations réelles, donc 1, 2, 3, et produit, et nouant ces trois relations réelles, elle a deux fruits. Premièrement, un fruit incréé. Le respectus du Verbe vis-à-vis de son incarnation. Et deuxièmement, un fruit créé. C'est l'humanité du Christ. C'est ça la maternité divine de Marie. Au sens strict. Et voyez bien qu'elle est divine, donc, par son terme. Puisque fondamentalement, le Verbe incarné est incréé, et c'est le premier fruit, et ultimement, l'humanité du Christ rentre dans l'incréation par la glorification, puisqu'il vient de source du Saint-Esprit, avec le Père, et donc son fruit créé, au niveau ultime, est également divin. Par conséquent, la maternité divine de Marie se termine vraiment à la divinité. Ce qui n'empêche pas qu'elle se termine à l'humanité, qui est son deuxième fruit. Bon, tout ça, c'est peut-être très vertical, n'empêche qu'il va falloir qu'on regarde du coup maintenant pour que ça puisse être un peu plus facile pour nous, heureusement. Un peu plus facile pour nous, on va regarder quand même un petit peu l'écriture, et puis du coup voir comment elle a fait, quoi. Comment elle a fait. Et si elle l'a fait, donc nous pouvons le faire. Et c'est parce que si l'écriture nous dit comment elle le fait, c'est qu'on va pouvoir le faire. Parce que l'écriture n'explique pas la pratique de la foi si c'est pas pour qu'on puisse le faire. Parce que l'écriture ne fait jamais rien d'inutile. Donc on va pouvoir le faire, si vous voulez. Et on va regarder comment la maternité divine de Marie... Elle est divine aussi par son fondement, par la manière dont ça s'est fait. C'est l'acte de foi de Marie qui a opéré. Et ça, à la limite, je crois que ce sera assez facile pour nous de le regarder, parce qu'on a l'habitude quand même de l'évangile de Saint-Luc. Donc on regardera ça, et ayant regardé ça, on va pouvoir enfin comprendre ce qui s'est passé entre la résurrection et l'ascension. Dans le cœur immaculé de Marie. Puisque elle a engendré le Verbe incarné à la nativité, ok ? Elle a engendré avec la blessure du cœur et avec le Christ le salut du monde entier, l'Esprit Saint quelque part, l'envoi de l'Esprit Saint dans le monde, du point de vue de la rédemption. Il faut regarder comment cette nativité, cette nouvelle nativité par laquelle Jésus naît à la gloire de la résurrection, passe par elle. Et cette naissance qui vient de sa maternité divine, qui commence d'ailleurs à devenir royale, va pouvoir permettre qu'il y ait la naissance de l'Église. Et la naissance de l'unité du corps mystique de Jésus, corps mystique de l'Église, Et cette nativité est engendrée par la mère de Dieu. Elle est mère de l'Église. C'est seulement depuis 1964 qu'on croit cela dans l'Église catholique, parce que c'est le pape Paul VI qui a voulu que Marie soit proclamée par l'Église mère de l'Église. Et on va regarder ce que ça veut dire. Cette nativité qui se termine à l'humanité chrétienne qui subsiste mystiquement dans le Verbe. Et pour ça, il y a la naissance de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une nativité. Marie-Reine, c'est la nativité de la Jérusalem céleste qui emporte avec elle la glorification du monde entier. Et il faut absolument voir comment on rentre, parce qu'il faut qu'on rentre dans son sein pour être engendré par elle. Donc il faut qu'on rentre dans sa vitalité. Et la vitalité qui est le propre de la vitalité de Marie, c'est son acte de foi. Donc il faut absolument qu'on comprenne l'acte de foi pour pouvoir s'engloutir dans son acte de foi et vivre cet acte de foi avec elle. À ce moment-là, on participe à la vocation chrétienne.